Mes chers amis, aujourd'hui 24 juillet, nous allons parler de Sacharbel Malklouf. Youssef Anton Malklouf naquit le 8 mai 1828 à Bgakafra, dans le nord du Liban, à 1800 mètres au-dessus de la Sainte Vallée, ainsi appelée en raison de toutes les implantations monastiques qui la peuplaient. De nombreux ermites vivaient dans des grottes et l'esprit ascétique qui s'en dégageait imprégnait toute la vallée. Les parents de Youssef, Antoun Zaharouf Malklouf et Brigitta Tchidiak, étaient des maronites, c'est-à-dire des chrétiens catholiques du Moyen-Orient. Ils avaient 5 enfants, 3 garçons dont Youssef leur cadet et 2 filles. La famille étant très pieuse, Youssef reçut une excellente éducation chrétienne et dès sa plus tendre enfance, il manifesta son goût pour la prière. Son père travaillait la terre et élevait des bêtes. Malheureusement, en 1831, l'armée ottomane réquisitionna avec son âne pour transporter les récoltes de l'émir jusqu'au port de Byblos. Et sur le chemin du retour, une fièvre pernicieuse le terrassa. Youssef n'avait que 3 ans. 2 ans plus tard, sa mère, Brigitta, se remaria avec un petit propriétaire terrien qui devient prêtre sous le nom religieux d'Abdel Ahad. Chez les maronites, comme dans plusieurs autres communautés de rite oriental, les hommes mariés pouvaient devenir prêtres et exercer leur ministère. Abdel Ahad devint le curé de Bgakafra. Comme il était aussi le maître d'école du village, Youssef devint un élève de son beau-père prêtre, homme très cultivé et très pieux. À l'école du village, Youssef étudia l'arabe et le syriaque, mais comme à cette époque, pour la plupart des élèves, les études primaires se bornaient surtout à apprendre à lire et à écrire, à prier et à servir la messe, Youssef avait du temps pour s'occuper d'un petit troupeau qu'il emmenait paître tous les jours. Pendant que le bétail paissait, il se rendait dans une grotte voisine et, à genoux devant une image de la Sainte Vierge, il priait. La grotte devint ainsi son premier ermitage. Youssef était déjà attiré par la vie monacale, à l'exemple de ses 2 oncles maternels qui occupaient l'ermitage du monastère Saint-Antoine, Kozaïa. En 1851, Youssef, alors âgé de 23 ans, résolut de quitter son village sans prévenir personne, pour se rendre au monastère de l'ordre libanais maronite Notre-Dame de Maïfouk, au nord de Byblos. 8 jours après son entrée, il prit l'habit et choisit le nom de Charbel, un illustre martyr de l'église d'Antioche, martyrisé en l'an 107 sous Trajan. Très vite, Charbel se signala par son humilité et la ferveur de sa piété. Après 2 années de noviciat, en octobre 1853, il fut envoyé au monastère de Saint-Maron où il prononça ses 3 vœux monacaux de pauvreté, chasteté et obéissance. Puis Charbel fut envoyé au monastère de Kfefan où il étudia la philosophie et la théologie. Ensuite, il revint au monastère de Saint-Maron. Là, il se consacra totalement au Christ avec un cœur non partagé et vécut en silence. En juillet 1859, Monseigneur Joseph Almadrid l'ordonna prêtre. Saint Charbel était déjà âgé de 31 ans. Après son ordination, il passa 16 ans à Anaya, au monastère de Saint-Maron, avant d'avoir l'autorisation, en 1875, de se retirer dans l'ermitage du monastère où s'écouleront les 23 dernières années de sa vie. Dans leur ermitage, Charbel et ses compagnons méditaient les saintes écritures et la vie de la Vierge Mère bénie. L'Eucharistie devint le centre et la lumière de la vie de Charbel. La prière pour la conversion du monde avait une grande place dans son cœur, car par la prière et la pénitence, il s'était offert en sacrifice afin que le monde revînt à Dieu. Charbel se livrait sans cesse à la pénitence et à la prière, ce qui ne l'empêchait pas de recevoir les fidèles qui avaient besoin de ses conseils. La messe constituait le cœur de sa journée. Il s'y préparait longuement et très soigneusement. ayant centré sa vie d'une part sur la cèse, le travail et la pauvreté, et d'autre part sur l'adoration et la communion eucharistique, Charbel était vraiment un modèle d'équilibre et d'amour pour tous ses frères. Sa vie était si perdue en Dieu qu'il faisait des miracles sans même s'en rendre compte. Comme un soir où, distrait, il versa de l'eau dans sa lampe à huile qui ne s'éteignit pas, mais au contraire brûla toute la nuit. Le 16 décembre 1898, en récitant la prière Père de vérité au cours de la liturgie sacrée qu'il célébrait, Charbel fut soudain atteint de paralysie. Il agonisa dans la paix pendant 8 jours. Ses lèvres ne cessaient de répéter les paroles de la messe. « Ô Père de vérité, voici votre fils, victime pour vous plaire », jusqu'au moment où il mourut. C'était la veille de Noël 1898 et Charbel avait 70 ans. Le soir de son enterrement, son supérieur écrivit comme une prophétie « À cause de ce qu'il fera après sa mort, je n'ai pas besoin de parler au sujet de son comportement. » Curieusement, en effet, quelques mois après la mort de Charbel, une vive lumière entoura soudain sa tombe qui, après ouverture, dévoila le corps de Charbel toujours intact. Depuis ce jour, un liquide un peu semblable à du plasma suinte de son corps. Les experts et les docteurs sont incapables de donner des explications médicales concernant l'incorruptibilité et la souplesse de son corps. Ce phénomène absolument inexplicable dura 79 ans, jusqu'en 1977, année de sa canonisation. En 1950 et 1952, la tombe de Charbel fut de nouveau ouverte et son corps avait toujours l'apparence d'un corps vivant. Son tombeau, qui suintait toujours du liquide, devint un lieu de pèlerinage et de guérisons innombrables. Aujourd'hui, Saint Charbel est l'un des saints les plus populaires du Liban. Maclouf Charbel a été béatifié par le pape Paul VI le 5 décembre 1965 et canonisé par ce même pape le dimanche 9 octobre 1977. Au cours de l'une de ces cérémonies, Paul VI déclara « Un ermite de la montagne libanaise est inscrit dans le nombre des bénis, un nouveau membre éminent de la sainteté monacale, enrichi par son exemple et son intercession, le peuple chrétien tout entier. Qu'il nous fasse comprendre, dans un monde largement fasciné par la richesse et le confort, la valeur primordiale de la pauvreté, la pénitence et l'ascétisme pour libérer l'âme dans sa montée à Dieu. » Le moine américain Thomas Merton a écrit dans son journal « Charbel a vécu comme un ermite au Liban. Il était un maronite. Il est mort. Tout le monde l'a oublié. 50 ans plus tard, son corps a été découvert, non corrompu, et en peu de temps, il a accompli plus de 600 miracles. Il est mon nouveau compagnon. Mon chemin a pris un nouveau tournant. » Le pape Jean-Paul II, dans son discours à l'église maronite, déclara le jeudi 10 février 2000 « Pendant ses 19 années au monastère de Saint-Maron, Charbel a exercé son ministère sacerdotal et ses devoirs monacaux d'une manière édifiante. Il s'est consacré totalement au Christ, avec un cœur non partagé, à vivre en silence devant l'inconnu. En 1875, Charbel a eu l'autorisation de vivre comme un ermite près du monastère à l'ermitage Saint-Pierre et Saint-Paul. Ses 23 années de vie solitaire furent vécues dans un esprit d'abandon total à Dieu. » L'Église universelle célèbre sa mémoire le 24 juillet. L'Église du Liban le célèbre également le 24 décembre, jour de sa naissance au ciel. Parlons maintenant de la vie spirituelle de Saint Charbel. Au monastère de Saint-Maron à Anaya, dès son lever, le frère Charbel se dirigeait vers la chapelle où il demeurait pendant 5 heures en adoration. Son cœur et ses pensées étaient plongés en Dieu. Presque continuellement agenouillé, il fixait le tabernacle tout en demeurant absorbé dans sa profonde méditation. Et cela continua dans son ermitage. De plus, le saint ermite entretenait sa vie d'oraison par le silence total. Cependant, par charité pour ceux qui venaient le trouver, aux questions qui lui étaient posées, il répondait aimablement, mais seulement le nécessaire, qui satisfaisait toujours ses auditeurs. Il y a cependant plus étonnant. La vie de l'ermite Charbel fut ponctuée de nombreux prodiges. Un de ses confrères déclara « Tout ce qu'on lit dans les biographies des saints est inférieur à ce que, de mes yeux, j'ai vu accomplir par le père Charbel. » Les gens de toutes les religions venaient lui demander de bénir non seulement leurs malades, mais également leurs champs, leurs maisons, et tout était miraculeusement protégé. Seuls les champs bénis par le saint échappaient aux ravages provoqués par la nature. Ainsi, sa bénédiction sauva plusieurs fois les élevages de vers à soie, seule ressource du couvent et des populations avoisinantes. Un jour, son supérieur lui ordonna de bénir le lieu où étaient entreposées les réserves alimentaires du couvent, pratiquement vides. Immédiatement, les jarres se remplirent de blé et d'huile. Charbel lisait aussi dans les consciences et voyait ce qui se passait loin de lui. Ces phénomènes inexplicables qui se produisirent durant la vie de Saint Charbel continuèrent après sa mort autour de sa tombe, comme si, écrivit Patrizia Cattaneo, une de ses biographes, comme si, durant la période historique, très douloureuse pour le Moyen-Orient, troublée par les guerres, les attentats et les haines, Saint Charbel avait intensifié son activité thaumaturgique, comme s'il avait voulu attirer l'attention des gens sur les valeurs spirituelles, sur les réalités surnaturelles que les événements des guerres auraient voulu effacer. Charbel, grand saint libanais, membre de l'Église catholique maronique, a vécu humblement et n'a laissé aucun écrit, lettre ou réflexion personnelle qui nous permettrait de mieux connaître ses relations intimes avec Dieu. Mais on peut dire que, mort, il vit toujours. On a dit que 1950 fut l'année de Charbel. Pourquoi ? Parce que cette année-là, année sainte pour toute l'Église, les phénomènes surnaturels relatifs au père Charbel connurent une véritable explosion. Durant cette année 1950, les miracles se multiplièrent et on enregistra plus de 2000. Un prêtre venu en pèlerinage cette année-là prit une photo du groupe qui l'accompagnait. Quand il développa le négatif, il s'aperçut que, sur cette photo, il y avait quelqu'un qui n'était pas là au moment de la prise. C'était l'image de Saint Charbel.